Bonjour et bienvenue dans la tête au carré. D'où viennent les parfums, les arômes et les saveurs en cuisine? Quels mécanismes nous permettent de percevoir avec tant de finesse toutes les subtilités d'un plat? On passe en cuisine cet après-midi avec le physico-chimiste Raphaël Aumont. Il vient de publier aux éditions Duno Les papilles du chimiste et nous allons voir avec lui que comprendre les mécanismes chimiques du goût peut permettre d'innover en cuisine, de jouer sur les parfums et d'imaginer de nouvelles associations de saveurs. Nous attendons vos questions gourmandes sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Et puis la une de la science avec Agnès Fèvre. Bonjour Agnès.
Bonjour Daniel.
Aujourd'hui, vous vous intéressez à une nouvelle cartographie du corps, l'atlas des cellules humaines.
Oui, un atlas qui veut sonder et répertorier tous les types de cellules présents dans le corps humain, que ce soit dans les tissus ou dans les organes, mieux les connaître pour éventuellement aussi mieux les soigner en cas de maladie. On en parle avec le biologiste Pascal Barbry.
On se retrouve dans un instant. Vos questions, vos réactions sur Twitter avec le mot-clé « l'attaque ». Voilà pour le menu de cette tête au carré, réalisé par Céline Hila et préparé par Thomas Lehété.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Bonjour Raphaël Aumont.
Bonjour.
Quand un chimiste décide de passer une tête en cuisine, il peut avoir des réflexions étonnantes. Par exemple, pour le chimiste que vous êtes, si ça sent bon, ce n'est pas forcément bon signe.
Et oui, on a tendance à rentrer chez des amis et se dire « ça sent bon chez toi, on va bien manger ouais. ». Mais moi, je dis souvent à mon ami, je dis « moi, ça me fait peur parce que si ça sent bon, que va-t-il rester dans nos assiettes et dans les casseroles ?» Parce que tout est parti dans la pièce et moi, dans mon assiette, j'ai peur qu'il reste que des notes de fond, des vieilles notes aromatiques, mais pas forcément toujours très agréables, alors qu'on va perdre toutes les vapeurs, toutes les choses vraiment très parfumées et subtiles.
Et dans votre laboratoire, vous réfléchissez justement à la façon de garder ces bonnes odeurs, ces bonnes saveurs qui s'évanouissent dans les fumées de nos casseroles.
On va chercher des nouveaux ustensiles pour justement capter, comme vous le dites si bien, tout ce qui part en fumée. Et donc par des techniques de distillation, etc. Donc chercher la nouvelle casserole de demain pour tout concentrer.
C'est votre rencontre en 2005 avec le chef étoilé Thierry Marx qui vous a décidé d'orienter vos activités de recherche vers les fourneaux.
Oui, c'est une rencontre magique il y a 10 ans avec Thierry et c'est vrai qu'on a monté le Centre français d'innovation culinaire à la Faculté des sciences d'Orsay et depuis maintenant 5 ans on opère pour chercher et réfléchir à la cuisine de demain, plus gourmande, plus saine, sans additifs et surtout donc plus sapide.
Saveurs, arômes et parfums, il faudra que vous nous disiez ce que ça veut dire sapide au menu de la tête au carré cet après-midi en compagnie du physico-chimiste Raphaël Aumont. Pour lui adresser une question, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. À la une de la science, les cellules du corps humain passées à la loupe pour constituer un atlas.
60 000 milliards de cellules pour un corps humain. Car tout dans la nature vivante, comme dans le corps, tout n'est que cellules. La peau et les os, les nerfs et les muscles, le cœur et le cerveau. Et chacune d'elles, organisme vivant et autonome, respire, produit de l'énergie, nourrit sa substance, se reproduit.
Un extrait du cultissime dessin animé « Il était une fois la vie ». L'Atlas des cellules humaines est un projet d'envergure mondiale qui compte recenser les cellules du corps humain, ou plutôt les différents types de cellules, financé par la fondation Chan Zuckerberg, initiative de cette dame qui est la compagne de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Il a démarré avec 38 projets pilotes, dont un en France et il est en train de devenir opérationnel. Le livre blanc du projet vient d'être publié. On en discute avec votre invité Agnès Fèvre.
Pascal Barbry, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire à l'Université Côte d'Azur. Alors dites-nous, il y a des milliers de milliards de cellules dans le corps humain. Vous les ciblez toutes avec ce projet ?
Alors effectivement, c'est l'ambition du projet et c'est ce qui en fait un projet d'envergure mondiale. Dans notre équipe, on va se contenter de regarder ce qui se passe dans un tissu qui nous intéresse particulièrement depuis plusieurs années, qui est le tissu respiratoire, et particulièrement les voies aériennes, c'est-à-dire la trachée, les bronches, le nez, cet endroit où il y a une interaction entre notre respiration et puis l'air extérieur, et donc où il se passe beaucoup de choses.
Mais à quoi ça sert de vouloir de cartographier les cellules humaines, Pascal Barbry ?
Alors, l'introduction le disait très bien, la cellule, c'est l'unité élémentaire du vivant. Et on sait bien que dans notre organisme, il y a des cellules très différentes qui vont être des neurones, des cellules musculaires, des cellules épithéliales qui vont protéger un compartiment particulier d'un autre dans l'organisme. Et la question qu'il y a, c'est de savoir comment ces cellules peuvent être élaborées, comment elles peuvent fonctionner ensemble, et donc finalement quelles sont les machineries qui peuvent se mettre en place de façon spécifique dans chacune de ces cellules. Et l'envergure du projet, c'est justement d'essayer de définir les caractères propres à chaque cellule, déjà être capable de les dénombrer, savoir combien de cellules on peut avoir dans nos voies aériennes supérieures, combien on peut en avoir dans le cerveau, combien on peut en avoir dans le cœur, etc.
Ça, on ne le sait pas encore, par exemple.
Alors, écoutez, si vous faites une recherche très rapide sur Internet, vous trouverez peut-être qu'on a 200 ou 1000 cellules dans le corps, alors que très probablement la moindre étude qui serait faite avec les outils qu'on a justement en main actuellement nous permet d'en détecter autant, mais dans un tout petit système. C'est vrai que c'est une question ouverte, c'est une question qui peut être importante parce que comprendre si une cellule est une cellule qui vient du foie ou du poumon, ça peut être important, par exemple, si on cherche à détecter une métastase dans un cancer. Et donc, on imagine très bien qu'il va y avoir des tas d'applications pratiques qui vont être fournies à partir des découvertes et simplement des observations et de cet atlas qui sera bâti.
Vous, justement, vous êtes associé à ce projet au sein d'une équipe de pneumologie du CHU de Nice. Et donc, vous nous disiez un petit peu en introduction, donc vous allez porter attention à des maladies en particulier, justement, au sein de cette équipe.
C'est effectivement une collaboration avec nos collègues du Centre hospitalier universitaire de Nice, les services de pneumologie adulte et enfants. Mon équipe, c'est une équipe de recherche fondamentale qui travaille dans un laboratoire CNRS et qui s'intéresse à la biologie des épithéliums respiratoires. Donc cet épithélium, c'est en fait cette zone de contact entre l'extérieur et puis le système interne de l'organisme des dysfonctionnements. On en connaît par exemple dans l'asthme, qui est une maladie donc qui touche un très grand nombre de personnes. On connaît également des maladies génétiques particulièrement terribles dans lesquelles cet épithélium est également touché. C'est le cas par exemple de la mucoviscidose. Donc réussir à décrire ce qui peut se passer dans cet épithélium, dans un fonctionnement normal, c'est aussi donner des pistes ou nous éclairer sur des possibilités d'action lorsqu'il y a une pathologie qui se met en route.
Pascal Barbry, concrètement, comment vous allez travailler pour constituer cet atlas de cellules humaines ?
Alors, ce qu'il faut voir déjà, c'est que on s'appuie sur des acquis. Alors, le premier acquis, et c'est intéressant parce que ça illustre aussi la nature de ce grand projet, c'est qu'on va utiliser les informations qui ont été acquises pendant le projet de séquençage du génome humain. Ce séquençage du génome humain, il nous donne une première base, il nous donne, la succession de nucléotides qui vont former les gènes, les ARN, les protéines dont on va être constitué, dont chaque cellule va être constituée. La deuxième chose, c'est que il y a eu des développements technologiques qui, à partir de ce qu'on avait fait dans le cadre du séquençage du génome humain, faisait que on avait besoin d'installer une grande usine à séquencer qui permettrait de faire d'établir la séquence des 3 milliards de bases du génome humain. Maintenant, ce système est devenu plus performant et avec du matériel actuel, on a des niveaux de sensibilité qui nous permettent de détecter ce qu'il peut y avoir dans une seule cellule humaine. Il y a 5 à 10 picogrammes d'acide nucléique dans une cellule humaine. Et la sensibilité de mesure permet maintenant d'atteindre ce niveau de sensibilité. Et le deuxième point et la deuxième avancée qui a permis, qui a rendu possible ce projet, c'était la possibilité d'isoler des cellules de le faire donc avec des systèmes de microfluidique, d'émulsions qui se sont développées, dans les 5 à 10 dernières années.
Et maintenant que vous disposez de ces nouveaux outils, combien de temps il va vous falloir, vous êtes plusieurs équipes dans le monde entier à travailler à l'élaboration de cet atlas de cellules humaines, combien de temps ça représente ?
Alors, il y a tout d'abord de très grands centres qui sont sur les rangs et qui vont participer à ce projet. Les chiffres qui ont été annoncés, c'est la réalisation de ce projet dans les 5 prochaines années. C'est un objectif qui semble réaliste dans les conditions actuelles.
Une dernière question, Agnès Fèvre.
Et ces données, au final, elles seront accessibles sous quelle forme et à qui ?
Alors, c'est un point qui me paraît intéressant dans ce projet. C'est un projet philanthropique qui est fait par des personnes, non pas par une société. Hein. C'est pas Facebook qui est derrière l'affaire.
Et, c'est son patron, quand même.
Pardon ?
C'est son patron quand même qui finance.
C'est son patron. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'une des choses qui a été mentionnée et qui est un des points intéressants à mon sens dans le projet, c'est justement le partage de la connaissance et le partage de toutes les informations. Mmh. C'est-à-dire que d'une part, l'idée c'est de pouvoir diffuser le plus rapidement possible les informations à travers notamment des systèmes tels que BioArchive et des systèmes de prépublication qui avant que les articles scientifiques habituels n'aient pu être validés par la communauté, échangés, etc. et éventuellement corrigés, permettent d'avoir un accès très rapide à une information donc avec une perte de temps minimale.
Merci.
Et la deuxième chose, c'est qu'il y aura également des répertoires qui seront accessibles à tout le monde et qui permettront donc d'avoir un accès libre à toute cette information.
Merci beaucoup Pascal Barbry. Et puis pour en savoir plus, hein, vous pouvez retrouver sur le site dumonde.fr l'article de Paul Ben Ki-moon consacré à ce projet de nouvel atlas des cellules humaines. Merci Pascal Barbry et Agnès Fèvre. À demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, à une semaine de la COP23 à Bonn, en Allemagne, une étude publiée dans The Lancet établit les répercussions du changement climatique sur la santé dans le monde. Entre 2000 et 2016, le nombre d'épisodes météorologiques extrêmes comme les ouragans, les inondations ou les sécheresses ont augmenté de 46% et certains symptômes se sont multipliés. Par exemple, le stress thermique ou coup de chaleur, l'aggravation d'insuffisance cardiaque préexistante ou encore le risque accru d'insuffisance rénale. C'est ce que révèlent les auteurs de cette étude. Ils s'intéressent aussi aux conséquences du réchauffement de la planète sur les rendements agricoles ou sur l'action du moustique porteur de la dengue, une action qui s'est renforcée ces dernières années selon les scientifiques. Moins d'asthme et moins d'eczéma chez les enfants grâce à la présence d'un chien. C'est la conclusion de deux études distinctes de chercheurs américains. Dans le premier cas, les femmes enceintes exposées à un chien au moins une heure par jour ont donné naissance à des enfants chez qui le risque d'eczéma était moindre par rapport aux enfants nés dans un environnement sans chien. Dans le second cas, c'est le cas de l'asthme, les scientifiques ont observé que la flore bactérienne des chiens avait un effet protecteur contre les symptômes allergiques. Ces résultats ont été présentés à Boston en fin de semaine dernière. Et puis en ce jour d'Halloween, allez donc faire un tour sur notre page Facebook. Vous y verrez un papillon de nuit avec des tentacules. Il s'agit de glandes qui servent à attirer un compagnon. Ce cliché a été diffusé depuis l'Indonésie, mais ce spécimen de papillon de nuit est présent dans toute l'Asie du Sud-Est et dans certaines parties de l'Australie. Chaud devant, la chimie du goût, dans un instant, dans la tête au carré.
Excusez. Crevettes en meringue à l'azote liquide, avec poudre de tarama. C'est une recette d'El Bouli. Je me suis mise à la cuisine moléculaire.
Ça me rappelle les cours de chimie au lycée.
Tout est blanc, tout givré, innocent, tout figé, c'est l'hiver. En été, tout est blanc, défoncé, aveuglant, déchiré, c'est l'hiver. En été. blanc, étouffé, faux semblant, allongé, c'est l'hiver, en été.
C'était Étienne Dao, les flocons de l'été sur France Inter dans La Tête au Carré.
T'as trouvé du fromage. Et c'est tout un fromage. Tome de chèvre de pays. Il accompagnera merveilleusement bien mon champignon. Oh, ce romarin avec peut-être avec ce nectar d'herbes sucrées. Oh, il faut que tu goûtes à ça. C'est un petit goût de brûlé, fondu. Et c'est pas un goût de fumée, ça c'est certain. C'est du genre... Tu vois ce que je veux dire? Zap! C'est ça le goût. Qu'est-ce que t'en dis? Comment tu décrirais ce goût, toi?
Foudroyant?
Oui.
Ah oui, ça peut être foudroyant, oui. Un goût en cuisine. Raphaël Aumont, auteur des Papilles du chimiste, c'est le titre de votre livre paru chez Dunod. Raphaël Aumont, vous êtes physico-chimiste à l'université Paris-Saclay et vous avez créé avec le chef étoilé Thierry Marx le centre d'innovation culinaire. Qu'est-ce qu'un scientifique comme vous peut apporter à un chef étoilé?
Bien. Tous les chefs, mais même les artisans, doivent innover. Celui qui n'innove pas, il meurt, il se fait dépasser, et donc il faut être toujours en quête d'innovation. Et pour innover, eh bien, il y a des stratégies d'innovation. On n'arrive pas le matin avec une feuille blanche en se disant « Allez, aujourd'hui, je vais inventer le nouveau Paris-Brest qui va me rendre célèbre. » Et donc, il y a des stratégies. Les chercheurs ont des cahiers de labo. Les cuisiniers ont des cahiers de recettes. Et c'est ce qu'on dit souvent avec Thierry. En fait, ça va être cette rencontre qui fait que, eh bien, il va falloir qu'un chef prenne vraiment les mêmes démarches d'un chercheur. Je note mes essais et je note surtout mes erreurs. Quand vous parlez avec un chef ou même des cuisiniers, souvent ils veulent que la recette fonctionne. Ils ont des cahiers de recettes qui réussissent. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pourquoi ça a raté, pourquoi tiens ça retombe trop vite, pourquoi ça change de couleur. Et donc on cherche le pourquoi et pas le comment. Et donc c'est cette rencontre magique avec Thierry qui avait cette même philosophie de chercheur finalement en lui. Et donc moi je peux apporter modestement des techniques, des explications, et lui me fournit aussi beaucoup d'inspiration. Donc c'est vraiment donnant-donnant et gagnant-gagnant, je dirais, avec Thierry.
Et alors au-delà de vos travaux à vous, il y a des recherches étonnantes qui sont menées sur la perception des goûts. Vous en parlez, hein, vous en relatez quelques-unes dans votre ouvrage. On apprend par exemple que tous les sens jouent quand on goûte quelque chose, y compris l'ouïe. Compris l'oreille.
C'est un jeu d'émotions globales. Même on a entendu dans l'extrait de Ratatouille, on manque de mots pour expliquer ce bonheur, ce plaisir, ce plat qui arrive. Voilà, un plat qui arrive au restaurant, c'est d'abord la vue. Faut que ce soit beau, faut que ça brille. Si on sent que c'est un petit peu mat, on se dit tiens, ça va peut-être être croustillant par ici, un peu collant parce que c'est brillant. Donc la vue déjà conditionne la perception. Et après, eh bien, il y a le toucher. Alors par la fourchette, par les dents, par les doigts évidemment. Donc le toucher joue un sens extrêmement important. Les textures sûr. Et puis il y a, comme vous le dites très justement, l'ouïe. Parce que quand ça croque, quand ça croustille, la bouche est une cavité résonante qui va faire résonner un petit peu dans les oreilles. Et par exemple, donc Blumenthal, donc un chef à Londres, eh bien fait écouter des bruits de verre qui éclatent pendant que les gens mangent un millefeuille. Eh bien, ça paraît très croustillant. Des chips bruyantes, ça c'est une étude justement qui a été reportée par Charles Spence. Eh bien, des chips très bruyantes paraissent meilleures.
Ah oui.
À recette égale. Donc c'est vraiment rigolo. Et dans un avion, encore une autre étude rigolote, c'est l'avion, comme c'est assez bruyant, on est à peu près à 80 décibels, etc. Eh bien, on est peu sensible au sucre. Par contre, on va aller rechercher du salé et de la saveur qu'on appelle umami. On en reparlera un peu, ouais. C'est cette saveur un peu qui est ni sucrée, ni acide, enfin... Et la tomate, par exemple, est à la fois umami, cette fameuse cinquième saveur, et salée. Et c'est la boisson la plus commandée dans les avions.
Oui.
Est-ce que c'est un hasard? Je pense pas.
Voilà pourquoi on commande plus de jus de tomate à bord des avions.
Par exemple, voilà.
C'est incroyable. Et toujours dans ce registre-là, si on écoute le bruit des vagues quand on mange des huîtres, là
et
encore...
Eh bien là, c'est pareil, ça va être encore plus iodé. Parce qu'on est propagé, on est baladé au bord de mer. Ouais. Et donc forcément, on se crée un univers pendant la dégustation.
Ouais. Alors, les sens qui vous intéressent le plus, évidemment en tant que physico-chimiste, ce sont l'odorat et le goût. C'est quoi une odeur pour un chimiste?
Une odeur pour un chimiste, ça va être une molécule aromatique, c'est-à-dire une molécule dont on est capable de ressentir, de percevoir, qui va exciter nos récepteurs. Ouais. Voilà. Donc, c'est une molécule qui va être volatile. Si je prends du parfum, si vous sentez mon parfum, c'est que cette molécule, elle est capable de s'évaporer à 30 degrés, la température de ma peau, aller parcourir la moitié de la pièce et rentrer dans votre nez et exciter certains récepteurs de votre nez.
C'est-à-dire qu'il faut que j'ai le récepteur. C'est-à-dire qu'une molécule
bon
pour
oui.
laquelle je n'ai pas de récepteur, ce n'est pas une odeur,
vous ne la ressentez
pas. Même si elle existe.
Voilà, exactement.
C'est-à-dire que les récepteurs préexistent aux odeurs dans notre nez.
Voilà, et donc c'est pour ça que les rats, les chiens, les abeilles, l'humain, on n'est pas tous sensibles eh bien, au même spectre de ouais. molécules.
Vous dites quand même qu'on n'est pas si mal équipé que ça. Hein. 1000 milliards d'odeurs, on peut capter 1000 milliards d'odeurs
on
différentes.
On est très très bien équipé, et ouais. ce qui est paradoxal, parce que le nez et l'odorat a été l'un des sens les plus dépréciés finalement par l'homme, alors qu'on a 4 gènes seulement pour la vue ouais. et 400 gènes pour l'olfaction. Ouais. Parce que c'est vulgaire de sentir, de renifler, alors que pourtant c'est vraiment un sens très très précieux.
Et puis pourtant une odeur peut nous faire beaucoup d'effets. Alors d'ailleurs oui, dans votre oui. livre vous parlez de la truffe pour un oui. parfumeur. Oui. La truffe, si on commence à décomposer un peu ce
oui,
qu'on
trouve, moins gourmand, là.
Ouais. ça devient moins gourmand. Vous l'avez en tête ce qu'il y a dans l'odeur de la truffe?
Il y a notamment de l'androstérol, donc qui est une. Alors ça c'est une molécule qui est, on va dire la chimie un peu du désir, donc c'est une molécule mâle, mais ça va être un peu le mâle en rut. Hein, si. Et puis il y a même de l'indole, du scatol, c'est-à-dire des molécules qu'on va retrouver aussi dans des excréments. Mmh. Et donc ça, mais à petite dose, ça peut être intéressant dans un parfum. Il y a des très grands parfums, je vais pas les citer ici, mais qui utilisent un peu d'indole, un peu de scatol, parce que ça donne des sortes de profondeur, de rusticité, de molécules lourdes.
Ouais, mais comment expliquer que la truffe ait autant de succès en cuisine quand on sait ce qu'il y a dedans? Parce que là, on le sent, c'est en grande quantité.
Hein, c'est un dosage, oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont vraiment très sensibles et qui détestent la truffe. Ouais. C'est soit on aime, soit on déteste. Parce que justement, cet androstérol, là, cette hormone mâle, parce qu'on y est très très sensible, soit au contraire, on est à double tranchant sensible. Quoi.
Alors il y a évidemment le sens du goût également. Et là aussi, en vous lisant, c'est formidable parce qu'on a l'impression, avant de vous lire, on pensait savoir des choses, et puis il y a des idées reçues qui tombent. Par exemple, déjà le nombre de saveurs. Finalement, oui. on se rend compte que c'est beaucoup plus flou que ce qu'on pensait. Combien
c'est
il existe de saveurs?
C'est complètement flou, c'est-à-dire que pendant des années, des dizaines d'années, on a appris que la langue se coupait en 4,
oui.
avec l'amertume au fond, le sucre devant, le sel un peu sur les côtés, mais c'est complètement faux.
Ouais. Et il n'y a pas de cartographie de la langue aussi précise.
Il y a une cartographie qui a été publiée en 1901, qui a été mal traduite, et c'est sur cette erreur en fait qu'on a cartographié la langue en 4, qui justement, donc c'est Gnig, qui a un Allemand, qui a montré qu'il y avait très très peu de variations entre les bords, l'extrémité et le fond de la langue. Alors, non seulement il n'y a pas que 4 saveurs, il y a cette cinquième saveur umami qui serait cette saveur japonaise qui vient un peu de l'algue, du glutamate notamment, les exhausteurs de goût, mais qu'on va retrouver dans la tomate, ouais. dans le parmesan.
Dans le comté, vous dites.
Dans le comté, dans l'agneau du présalé. Ouais. Donc finalement, c'est pas une saveur si japonaise que ça, et ouais. là, elle est connue depuis 1901. Et alors, extrêmement intéressant, mais c'est très, très récent aussi, hein, en 2015. On a découvert qu'on avait des récepteurs sensibles à la matière grasse. Donc on ressent les matières grasses comme on ressent le sucre, le sel, l'amertume. Mmh. On a aussi des récepteurs de la température.
Oui.
Mais donc, ça veut dire qu'il y a des aliments intrinsèquement froids. Vous mangez de la coriandre, du gingembre, du concombre, ça vous donne de la fraîcheur en bouche. Mais c'est des vrais récepteurs.
Donc, on a la saveur gras oléogustus.
Oléogustus, hein. Oléogustus. Voilà, c'est ça, le goût du gras.
Ça, ça pourrait intéresser l'industrie agroalimentaire.
Alors, c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que quand on a compris comment fonctionnaient les récepteurs du sucre, on a été capable de créer des édulcorants, c'est-à-dire des molécules qui étaient acaloriques, mais qui nous comblaient, qui comblaient nos récepteurs, et donc qui finalement donnaient un message intéressant au cerveau, d'un air de dire « ça y est, t'as mangé du sucre, t'es rassasié ». Actuellement, l'agroalimentaire, pour tous les produits light, joue que sur la texture. Donc on met de l'eau et on met des épaississants. C'est un peu caricatural, mais c'est ça. Et donc on compense la matière grasse par de l'épaisseur en bouche et de la viscosité. Or, maintenant qu'on sait qu'on a des récepteurs spécifiques, on va pouvoir créer des molécules comme des édulcorants spécifiques à nos récepteurs de matière grasse. Et on va arriver à satiété avec nos récepteurs de matière grasse. Et là, il y a tout un champ nouveau qui va pouvoir s'ouvrir.
Et puis vous parliez donc de cette saveur thermique. Alors là encore, on peut, alors une fois qu'on sait ça, le chimiste et le cuisinier peuvent s'amuser parce on peut faire du chaud avec des saveurs froides et inversement.
Et là, on a commencé à s'amuser avec Thierry là-dessus justement parce que par exemple, vous prenez du chocolat qui est quand même un corps un peu gras, qui est chaud. Hein, c'est des épices, c'est chaud. Vous rajoutez le chocolat, se marie très bien avec la menthe ou avec le concombre. La menthe.
Avec le concombre.
Avec le concombre. On en reparlera si vous voulez des nouvelles associations de saveurs. Le concombre, comme la menthe, comme l'estragon, comme le gingembre à faible dose, c'est des molécules, c'est des aliments froids. Donc ils vont vous donner de la fraîcheur en bouche. Et là déjà vous avez un problème entre, un problème voulu et volontaire, qui va vous exciter un peu les papilles, entre ce chocolat chaud et puis cette menthe qui va vous donner une menthe glaciale. Mmh. Et vous pouvez exacerber ça avec par exemple du xylitol, c'est un extrait du bouleau, d'un arbre. C'est des petits cristaux de sucre, mais peu caloriques, qui ont besoin de chaleur pour fondre. Et ils vont prendre la chaleur dans votre bouche et donc ça va baisser encore la température. Et vous avez un vrai effet de froid en bouche et de frais. Oui. Donc là, on peut vraiment jouer sur les textures, les saveurs et les sensations thermiques. Et ça, je termine juste là-dessus parce que je cite souvent Thierry Marx. Thierry dit... La cuisine, c'est un jeu de texture et de température. Bah là, on est en plein dedans avec ces recherches.
Oui. Avec aussi ce que vous appelez les illusions gustatives. On joue les paradoxes, on va mélanger le sucré, le salé. Vous êtes capable, en tant que chimiste, d'expliquer pourquoi on est à ce point addictif au caramel au beurre salé?
Bah oui, on va perturber, parce que, par exemple, le caramel au beurre salé, c'est extrêmement intéressant. Vous avez le sel qui va faire des impulsions un peu électriques, rapides, qui va vous exciter les papilles de façon assez violente, qui va vous faire saliver. Et puis à côté, vous contrebalancez tout de suite avec du sucre, et puis donc de la rondeur, et cette rondeur elle est exacerbée par le côté beurre salé, donc tout c'est, on vient justement de parler des récepteurs de gras, et bien tout ça, ça va faire de la rondeur en bouche, de la persistance, et donc finalement c'est un produit magique, le caramel au beurre salé, quand on commence à le manger, parce que bon, on peut plus s'arrêter, et c'est vraiment le but en fait.
On a encore plein de choses à se dire, notamment sur ces associations, ces saveurs que l'on peut mélanger et créer justement de nouveaux goûts. Vous vous attachez aussi à décrire finement les transformations physiques et chimiques qui ont lieu dans nos casseroles, et on va voir que ça permet là encore d'innover. La science a du goût, avec Raphaël Aumont dans La Tête au Carré. Pour adresser vos questions à notre invité, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceinter.fr. C'était Dear Life de Beck sur France Inter.
La tête au carré, Daniel Fievé.
En l'an 2000, que mangerons-nous alors?
Pour manger un beefsteak, on aura une pilule. Ça ira plus vite.
Peut-être la salade ne sera pas pareille.
Elle sera comment?
Tête bleue.
Des enfants que l'on interviewait dans les années 60 et à qui on demandait ce que l'on mangerait en l'an 2000. Raphaël Aumont, physico-chimiste, est l'invité de La Tête au Carré. Il signe chez Dunod un livre intitulé « Les papilles du chimiste ». Alors, la cuisine du futur innovante, on a toujours tendance à imaginer qu'elle va déboucher sur des choses peu ragoûtantes, comme une salade bleue par exemple. Ça me permet d'ailleurs de vous poser tout de suite la question de Pauline qui est arrivée sur la page de l'émission. Raphaël Aumont, rechercher des goûts artificiellement ne se fait-il pas au détriment de la sécurité alimentaire? C'est un peu toujours le procès qu'on oppose à cette nouvelle chimie culinaire.
Oui, alors nous, c'est pas du tout le propos qu'on a justement avec Thierry. On part du principe que la nature nous offre des choses merveilleuses, aussi bien en termes d'additifs que d'additifs naturels. Hein. C'est-à-dire, vous regardez une orange, il y a plein de gélifiants dans une orange, c'est des pectines. Pourquoi aller acheter des pectines artificielles ou modifiées? Et là, la question de Pauline est très juste. C'est-à-dire, pourquoi en chimie créer des molécules aromatiques synthétiques alors qu'on peut aller mieux comprendre ce qu'est un zeste d'orange? Par exemple, vous regardez la vanille. La vanilline est l'une des molécules responsables de ce goût vanille. Mais c'est pas la seule. Dans une vanille, il y a 300-350 molécules aromatiques. Donc c'est une caricature de considérer que vanille égale vanilline. Et les chimistes ont compris où étaient les récepteurs, entre guillemets, vanille. Et donc on crée l'éthylvanilline, qui est une molécule synthétique, artificielle, qui n'existe pas dans aucune gousse de vanille dans le monde, mais qui donne un goût vanille au cerveau 100 à 500 fois plus puissant. Mmh. Quel est l'intérêt de faire ça? À part modifier nos palais, et en plus, effectivement, on n'a pas forcément de retour, c'est comme les édulcorants d'ailleurs, hein, assez de recul sur la santé. Donc moi, je ne travaille pas pour ce genre de personnes.
Oui, on a bien fait de le préciser.
Bien sûr, parce
que
effectivement, il y a des chimistes qui, au contraire, se disent, bah tiens, voilà, la cuisine, c'est qu'une affaire finalement de molécules, je vais inventer des molécules et je mangerai plus de bananes, je mangerai plus de framboises, parce que au labo, je suis capable de faire une molécule qui a goût de framboise. Ouais. Sauf qu'une framboise, c'est 350 molécules. Ouais. Et alors, ok, vous pouvez faire la bêta-ionone, par exemple, qui a goût de violette. Mais vous mangez une violette, il y a quand même toute une subtilité que vous allez perdre. Ouais. On parlait de la vanille, vanille de Tahiti, vanille de Madagascar, vanille de Madagascar, vanille bourbon, et bien tout ça c'est des profils différents et donc on peut pas réduire à la vanille, c'est vraiment une caricature.
Et puis comprendre les réactions chimiques, ça peut être aussi comprendre des gestes très traditionnels que l'on fait depuis très longtemps. Par exemple, vous expliquez dans votre livre pourquoi ça a du sens de mettre du citron sur du poisson du point de vue chimique.
Mais oui, voilà, par contre, ça va contrebalancer certaines molécules un peu ammoniaques. Vous savez, quand on cuit du poisson, souvent on se dit oh là là, au secours, ça sent mauvais, ça sent même un peu l'urine d'ailleurs dans le poisson. Il y a des molécules communes, ammoniaques. Et donc, pour éviter ça, on peut jouer sur de l'acide citrique qu'on va retrouver dans le jus de citron, qui va tuer, entre guillemets, ces molécules aromatiques.
Et quand on cuisine, on opère des transformations chimiques des aliments. Là aussi, vous êtes capable de nous dire pourquoi. Si je cuis mes légumes dans deux eaux différentes, dans deux casseroles différentes, et que je mélange les bouillons à l'arrivée,
le goût
ne sera pas le même que si j'ai cuit tous mes légumes dans la même casserole dès le départ. Ça s'explique chimiquement.
Oui, exactement. Et par exemple, alors, ce que vous dites sur les légumes, ça va être des réactions de Maillard. Et nous, on a proposé des réactions de Maillard, on va dire végétales. C'est-à-dire qu'on se dit toujours à réaction de Maillard. Donc, c'est la couleur de la viande, c'est le pain grillé, c'est cette note un peu torréfiée, etc. Mais, donc c'est la réaction entre des protéines et du sucre. Quand les deux se rencontrent, en chauffant, eh bien, vous créez plusieurs. Alors, vous créez des pigments, d'ailleurs. C'est pour ça que le pain brunit, c'est la croûte de pain, que le steak devient un peu brun, et c'est ça qui va donner donc de la couleur et des nouvelles molécules aromatiques. Mais ça marche aussi pour les végétaux. Par exemple, si vous prenez des pois chiches, eh bien, c'est très très riche en protéines. Si vous prenez des carottes et des oignons ou des tomates, c'est riche en sucre. Si vous mélangez les deux et que vous les mettez à cuire ensemble à haute température, vous allez faire des réactions de Maillard végétales. Et si après vous, comme on dit en cuisine, vous mouillez à hauteur, c'est-à-dire vous rajoutez de l'eau et vous laissez réduire, vous allez capter toutes ces molécules et vous allez avoir un bouillon qui va être beaucoup plus intéressant parce que les deux molécules se seront rencontrées.
Et quand on comprend ce qui se passe du point de vue chimique dans la casserole, on risque moins de laisser s'envoler bêtement certains arômes. Là aussi, on apprend en vous lisant qu'il y a des tas d'arômes très frais qui sont
très
justement dans les légumes, mais qui, à partir de certaines températures, disparaissent totalement.
C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, justement, de répertorier et d'avoir cette approche de parfumerie culinaire. Je propose ce terme de parfumerie culinaire parce que j'y suis très attaché. Par exemple, si vous regardez, on prend deux recettes de, je sais pas, crème pâtissière ou crème brûlée. une avec au citron et l'autre à la vanille. Dans les deux cas, on nous dit de prendre du lait et de mettre des zestes de citron ou des gousses de vanille à bouillir, de laisser infuser, puis après de mélanger sur jaune d'œuf, sucre, etc. Bon, après, c'est le reste de la recette. Alors vous dites, la vanille, ça a du sens de la mettre à bouillir dès le début. Pourquoi ? On parlait de la vanille tout à l'heure. Cette vanille, elle tient à plus de 280 degrés. Ce qui veut dire que plus vous allez chauffer cette vanille, plus ça va libérer les molécules aromatiques. Et votre lait sera de plus en plus parfumé avec la vanille. Vous voyez, on parle toujours de parfum, elle est parfumée. Au contraire, les zestes de citron, c'est aberrant de les mettre dès le début à bouillir. Pourquoi ? Parce que le limonène qui est présent dans les zestes de citron d'orange part à 48 degrés. Donc dès que vous chauffez, ça sent le citron dans la pièce. Et alors, c'est ce qu'on disait en introduction, si ça sent bon le citron, est-ce que mon lait va avoir goût de citron ? Donc vous voyez, ça, pour faire une crème brûlée à la vanille, je vais conseiller de mettre la vanille dès le début. Si je veux faire une crème brûlée au citron, je vais mettre à bouillir le lait, je vais mettre sur le jaune d'œuf, etc. Et en dernière minute, je vais râper mes zestes de citron pour garder cette fraîcheur.
Est-ce que vous venez de dire, c'est valable pour toutes les herbes aromatiques, hein, coriandre, estragon, aneth, ciboulette, basilic, cerfeuil, à partir de 45 degrés, tout s'évapore.
Et oui, dès 45 degrés, il y a plein de molécules, toutes ces fraîcheurs que vous allez perdre. Et les furfurales, c'est pareil, vous avez vers 60 degrés par exemple, ces notes un peu de pain grillé, de choses comme ça, ça va partir très vite aussi. Et l'hexanol par exemple, alors l'hexanol c'est quoi ? C'est une molécule à 63 degrés à part, c'est une molécule qui va donner ce goût de notes fraîches. Vous savez, la fraîcheur d'une salade, la fraîcheur du concombre, la fraîcheur d'une salade, de haricots verts par exemple. Et bien, toutes ces notes chlorophylles vont partir à 63 degrés. Donc quand vous faites une soupe et qu'on met à bouillir pendant 20 minutes, mais qu'est-ce qui reste de nos légumes ? Des fibres, et puis pas grand-chose en termes de saveur.
Alors qu'est-ce qu'on retient de ça ? On retient qu'il faut surtout ajouter le persil à la toute fin de la cuisson, voilà, une fois qu'on a retiré la casserole du feu.
Toutes les herbes aromatiques à la fin. Ouais. Ça c'est vraiment... Et c'est du bon sens que par exemple les Indiens, ils cuisinent et en dernière minute, ils mettent la coriandre coupée sur le plat parce que justement c'est ces vapeurs qui vont remonter.
C'est pas valable pour le bouquet garni qui, si j'ai bien compris, lui, on peut continuer à le mettre au début de la cuisson, ça a du sens.
Le thym et le laurier, ça tient à plus de 230 degrés.
Ouais. Mais... On comprend tout, on sait pourquoi on fait les choses une fois qu'on a essayé de comprendre chimiquement.
Mais c'est toujours, oui, merci pour ce compliment parce qu'effectivement, c'est se dire je vais regarder la cuisine, quand je cuisine, je vais garder ce côté plaisir, ce côté émotion, ce côté création avec un chef, mais je vais me dire, mais pourquoi je fais les choses et est-ce que dans ma recette, il faut vraiment que je fasse petit 1 avant petit 2 et si je fais petit 2 avant petit 1, est-ce que c'est très grave ou est-ce que c'est pas mieux. Et donc c'est se dire voilà, la carotte, quand est-ce que je la mets, les oignons, l'ail, si je veux qu'ils soient piquants, je le mets à la fin, si je veux perdre le côté piquant, j'ai intérêt de le mettre au début, etc., etc. Et donc on a cartographié comme ça certaines réactions, on parlait de la réaction de Maillard, il y a les caramélisations, il y a le brunissement, les oxydations, enfin bref, un peu toutes les grandes réactions en cuisine, et puis toutes les grandes familles de molécules, les herbes aromatiques, et c'est pour ça qu'on en vient finalement à la parfumerie culinaire.
Ouais. Avec cette tête, pyramide aromatique qui permet de s'y retrouver.
On peut parler de notes de tête. Ouais. Donc tout ce qui est citron, les herbes aromatiques, la coriandre, etc. Les notes de cœur, donc plutôt les chlorophylles, etc. Et puis les notes de fond, qui, par exemple, la vanille, le thym, le laurier, qui, eux, on sait qu'ils vont rester au fond de la casserole, avec un petit jeu de mots.
Alors, vous innovez beaucoup avec Thierry Marx, on l'a entendu, et lui n'hésite pas à utiliser des techniques nouvelles. Exemple, ici, avec un concombre.
On va tout utiliser du concombre, la peau, donc sa déstructuration totale, donc sa peau, ses viscères, toutes ces petites parties, finalement, qui sont souvent jetées, quand on est très très bonnes. Le jus du concombre qu'on a eu par cryo-extraction, c'est-à-dire... extraction par l'azote, on a trempé le concombre dans l'azote extrêmement frais, ensuite on l'a centrifugé, on a récupéré une pulpe qu'on a mise sous pression avec un CO2 pour avoir petit pétillement du jus de concombre, une petite effervescence comme ça. Si vous vous contentez d'aller voir ce qui a déjà été écrit et que vous considérez ça pour vrai, vous avancez pas, c'est de l'obscurantisme. On peut parler de cuisine moléculaire traditionnelle, ça n'a pas d'intérêt si c'est pas dirigé vers le plaisir.
Thierry Marx, interviewé dans l'émission 100% Mag sur M6. C'est fou ce qu'on peut faire avec un concombre, hein, des hautes pressions, de la cryo-extraction. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Je reviens juste sur ce que dit Thierry, c'est-à-dire c'est pour le plaisir avant tout, pour des nouvelles émotions. Et après, on oublie la technique. C'est ça qui est magique quand on mange chez Thierry, c'est qu'il y a un plat qui arrive et on ne soupçonne pas que le jus a été cryo-extrait. Mais vous goûtez et vous dites... Waouh, mais c'est incroyable ce jus de concombre. Pourtant, il est réduit. On sent qu'on a enlevé un petit peu l'eau. Il y a un goût extrêmement puissant. On a l'impression de manger 3 concombres en une bouchée. Et pourquoi ? C'est la technique au service de l'émotion culinaire.
Et c'est quoi alors cette technique ? La cryo-extraction ?
La cryo-distillation. vous connaissez la distillation. Quand vous chauffez du vin, c'est d'abord l'alcool qui s'évapore et qui va emporter avec lui toutes les notes aromatiques, justement, fragiles. Et après, vous allez récupérer l'eau parce que la température d'ébullition de l'alcool n'est pas la même que la température d'ébullition de l'eau. Mmh. Eh bien, on peut faire la même chose avec le froid. C'est-à-dire que l'eau pure congèle à 0 degré, l'eau sucrée, l'eau salée, l'eau enrichie d'arômes et de parfums naturels, eh bien, va congeler à plus basse température. Et en jouant sur les différences comme ça, donc vous prenez ce concombre dont parlait Thierry, eh bien, si vous travaillez à moins 3, moins 4 degrés, vous allez congeler l'eau pure, pas très intéressante, mais par contre, l'eau enrichie d'arômes, elle ne sera toujours pas congelée. Et donc, vous la gardez et vous distillez par le froid.
Oui, c'est-à-dire qu'on arrive à enlever le supplément d'eau, ou en tout cas une partie de l'eau, mais sans avoir à chauffer.
Exactement. Donc on peut aussi, alors, je vous ai apporté une petite surprise.
Ah bon.
Eh bien, ça, c'est de l'eau de chocolat.
Alors, c'est dans un petit bocal en plastique.
Voilà, du chocolat noir incolore.
Effectivement, ça sent très très fort
le chocolat.
On vient
de faire ça et on va le présenter demain au Salon du chocolat.
Alors, c'est translucide, c'est vraiment de l'eau, c'est-à-dire que...
On a capté, grâce à l'eau, grâce à des techniques de distillation, de micro, enfin, et tout un tas de techniques un peu complexes, mais on a capté toutes les molécules sapides, aromatiques du chocolat, dans ce petit flacon. Et il se trouve qu'on n'a pas les pigments, donc on a un chocolat noir incolore. Mais on a toutes les molécules aromatiques très importantes. Quand vous mettez à bouillir, quand vous faites du chocolat au lait chez vous, ça sent le chocolat. Bah, c'est toujours pareil. Donc on a tout récupéré, ce qui traînait dans la pièce.
C'est assez incroyable, hein, parce que pour l'auditeur, c'est comme si vous aviez un verre d'eau devant vous et vous sentez, ça sent plus fort que n'importe quel chocolat
chaud. Concentré, cryoconcentration. Voilà, on en parlait. Bah, je vous ai pas amené du concombre, je vous ai apporté du chocolat, parce qu'en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il est complètement incolore. C'est le salon du chocolat en ce moment, donc innovons autour du chocolat.
Allez, à la fin de votre ouvrage, vous livrez une dizaine de recettes originales issues de vos expérimentations. On compte sur vous pour nous en donner une dans un instant. Et puis vous répondrez aux questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous sur la page de La Tête au Carré.
De l'autre côté de ton corps, il y a ma vie et le journal. Ma tendresse quand tu dors, mes caresses quand tu as mal. De l'autre côté de ton âme, il y a le contraire de l'ennui. Des parfums de macadam venus de Nina Ricci. Dans le dos de l'autre côté de ton corps, y'a mes doigts qui se baladent. De l'autre côté de ton âme, avec mes rêves malades. De l'autre côté de ton corps, y'a des lorcas, des hikmets, des milliers d'autres encore, pas tous forcément poètes. Y'a des noms dans les journaux, des noms d'hommes et de femmes qui vécurent comme des héros. L'autre côté de ton corps, y'a ces rues de solitude où rêvent des météores qui fuient au nord et au sud. L'autre côté de ton âme, y'a mes yeux qui se réfugient, mes soifs de bagarame quand je marche dans Paris.
C'était Yves Simon, de l'autre côté de ton âme, la programmation musicale de La Tête au Carré, signée Thierry Dupin.
La Tête au Carré, sur France Inter.
Je vais t'enseigner c'est quoi la nourriture. Ferme les yeux. Tiens, mâche lentement. Concentre-toi sur le goût. Hein, tu vois ?
Pas encore.
Crémeux, salé, fruité, un goût de chêne, de noix. Tu détectes ça ?
Ah oui, je connais ça, les noix.
Ferme les yeux. Maintenant, goûte à ça. Oh, tout autre chose, hein. Sucré, frais, avec une touche d'agrumes à la fin.
Ok.
Maintenant, essaie les deux ensemble.
Ok. Ok, je pense que je sens quelque chose. Ça pourrait être bien pour moi.
tu vois?
Ou bien la crème.
Voilà. Maintenant, imagine toutes les bonnes saveurs au monde mélangées en d'infinies combinaisons. Des saveurs que personne ne connaît encore. Toutes sortes de découvertes à faire.
Un nouvel extrait du dessin animé Ratatouille. Je vous voyais sourire, Raphaël Aumont. Vous publiez Les Papilles du Chimiste aux éditions Duno. Vous êtes pour ces associations de saveurs, ces créations de saveurs que personne ne connaît encore.
Mais oui, qu'il faut chercher et tester. C'est toute la beauté de ce métier qu'un cuisinier. C'est-à-dire, c'est d'associer des textures, des saveurs et nous faire voyager, nous, en tant que simples consommateurs. Et il y a encore plein de choses à découvrir. Je dis souvent, c'est triste on a l'impression qu'on va nous faire manger ces yaourts pêche abricot, ou fraises framboises, ou chocolat pistache, toute notre vie. Est-ce qu'on peut pas passer à autre chose, quoi? Même si chocolat pistache, c'est très bon, mais on peut, je pense, découvrir de nouvelles associations.
Alors, comment on fait ça? Pour pas y aller complètement à tâtons, là encore, le chimiste a son mot à dire.
La science peut aider, modestement, un cuisinier ou même quelqu'un de l'agroalimentaire, d'ailleurs, à proposer des nouveaux accords. L'idée, c'est d'aller cartographier les aliments. Et alors, on parlait tout à l'heure des fraises ou alors de la vanille qui contient 300-350 molécules. Donc, on va passer, on va analyser une fraise, par exemple, et puis on va regarder toutes les molécules sapides, c'est-à-dire qui donnent du goût, d'une fraise. On va faire la même chose avec de l'ananas, et on va se rendre et avec tout comme ça tous les aliments. Et on va se rendre compte, par exemple, que fraises et ananas ont plein de molécules communes. Donc, si vous mangez de la fraise et de l'ananas en même temps, eh bien, vous allez exciter les mêmes récepteurs. Donc, il va y avoir un seul message cohérent au cerveau, et lui va dire message cohérent, accord parfait. Et de la même façon, rose, framboise et litchi, le fameux macaron d'Ispahan de Pierre Hermé, ça fonctionne. Mangue, passion, ça marche aussi. Et justement, chocolat pistache ou pêche abricot, ça marche aussi. Mmh. Parce qu'à chaque fois, ce sont des molécules qui sont communes dans deux produits et donc un seul message. Et donc à partir de là, eh bien on va pouvoir regarder toute cette base de données et se dire, mais le chocolat, ça marche avec la menthe, on le sait. Mais ça marcherait aussi bien avec le concombre qui a plein de molécules communes.
Donc ça, vous conseillez à nos auditeurs, comment ça se passe?
On fait quoi? Chocolat concombre.
Chocolat chaud que l'on fait couler un coulis de
chocolat. Alors ça peut être une petite ganache. Non, vous partez par exemple sur une ganache au chocolat, une mousse au chocolat. Mais au lieu de servir ça avec une petite gelée de menthe, essayez une gelée de concombre. Ouais. Juste un petit jus de concombre, par exemple. Mais vous avez fraise ananas et poivre timut, c'est un poivre un peu sympa qui se trouve maintenant partout. Essayez des fraises avec un peu d'ananas, un petit peu de poivre dessus, et c'est juste magique et c'est inédit.
Gabriel vous demande sur la page de l'émission pourquoi l'odorat et la perception des saveurs sont altérés dans l'espace en apesanteur. Déjà, est-ce que c'est vrai?
Alors, c'est vrai, c'est très juste. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en apesanteur, vous n'avez pas de gravité. Et donc, vous n'avez pas ce qu'on appelle la rétro-olfaction. Donc, les molécules, si vous ouvrez une boîte de conserve sur Terre, tout de suite, les molécules les plus fragiles s'évaporent, montent dans le nez et vont commencer à tourner et vont exciter vos récepteurs. Dans l'espace, il n'y a aucune raison qu'elle monte. Il n'y a pas de convection. Donc, ça sent moins. Et donc, il va falloir augmenter les saveurs. Par exemple, qu'on travaille. Alors, on a eu la chance avec Thierry de travailler pour Thomas Pesquet.
Et, l'astronaute, donc.
L'astronaute, ouais, bien sûr. Et donc, c'est Thierry qui a élaboré les recettes. Moi, j'ai juste regardé et suivi un petit peu. Et bien, il va falloir surdoser, surpoivrer, parce qu'on perd énormément de goût. Il faut savoir que c'est comme quand vous êtes enrhumé, vous bouchez le nez, bah, vous sentez quasiment plus rien.
Allez, une idée de recettes. Il y en a une dizaine à la fin de votre livre, qui n'est évidemment pas uniquement un livre de recettes, c'est un petit bonus à la fin.
Oui, c'est un bonus que je voulais
faire. Quelques recettes, vous nous en donnez une en bonus à nous aussi de ces recettes.
Allez, une recette justement sur des associations de saveurs originales, par exemple les huîtres. Noël va arriver, on a tous envie de faire des bonnes huîtres, et puis là, c'est le drame, parce qu'on se dit soit c'est jus de citron, soit c'est vinaigre échalote. Bon, est-ce qu'on peut pas passer à autre chose? Eh ben moi je propose huîtres, saké, litchi. Et vous allez voir que c'est assez magique parce que, alors, soit vous faites des encapsulations, soit vous simplement un jus de litchi avec un peu de saké. Et là, vous allez avoir des accords assez merveilleux. D'abord, ça s'accorde bien parce qu'il y a plein de molécules communes. Et puis, vous allez avoir un côté très floral avec le litchi. Vous allez avoir un côté un peu volatile qui va remonter justement dans le nez. On parlait de la rétro-olfaction avec le saké. Et puis, que ça va contrebalancer, mais avec justesse, l'iode. Et puis, le côté un peu gras de l'huître. Donc, c'est très, très complet comme saveur. Il y a de l'umami, il y a un peu de sucre, un peu de sel, un peu. C'est merveilleux comme association. Donc, et voilà, une recette parmi les 10.
Pour les curieux qui auront envie de tester. Thomas vous demande sur Internet, à quel moment faut-il saler les aliments? Quelle différence entre saler en début ou en fin de cuisson?
Alors ça dépend des aliments. Par exemple, si vous cuisez des pâtes, du riz, des choses comme ça, moi je conseille de saler dès le début pour laisser le temps à l'eau salée de rentrer au cœur du riz ou des pâtes. Il faut savoir que le riz et les pâtes, ça prennent 3 à 10 fois leur volume. Donc autant donner du goût à ce volume qui augmente. Le steak, par exemple, on a vu qu'il n'y avait pas d'effet, il n'y a pas plus de perte d'eau quand vous cuisez un steak aller-retour comme ça, si vous salez au début ou à la fin de cuisson. Donc moi, je suis d'emblée. Et moi, je conseillerais plutôt de mettre des cristaux de sel juste à la fin, où là, vous allez un peu exciter les papilles avec ce petit croustillant de la fleur de sel qui est plus intéressant, à mon sens, qu'une viande sursalée dès le début.
David nous dit, je suis oléiculteur dans l'Hérault. Est-ce que votre invité peut expliquer pourquoi l'huile d'olive et la glace à la vanille se marient si bien? C'est vrai ou pas?
Voilà, food pairing. C'est-à-dire, c'est des associations de saveurs. Il y a de il y a plein de molécules communes dans la vanille et dans l'olive. Et effectivement, alors ce sont ce qu'on appelle des notes tanniques. Et donc vous allez avoir ces profondeurs en bouche et vous allez retrouver de très très nombreuses molécules dans l'olive et dans la vanille. Et ça, je vous conseille vraiment de faire des tests comme ça de gâteaux, par exemple, huile d'olive, vanille.
Merci Raphaël
merci à vous
De nous avoir régalé. Votre livre s'intitule Les papilles du chimiste. Il est paru aux éditions Dunod. Merci à vous.
Merci.
La science grand format en partenariat avec France 5.
Et comme tous les mardis, un petit aperçu du documentaire proposé sur France 5 à 20h50 ce soir dans la case grand format, science grand format. Bonjour Thierry Minot.
Oui, bonjour Daniel.
Alors ce soir, le documentaire diffusé sur France 5 nous invite à un voyage en Égypte mais aussi dans les étoiles. Comment est-ce possible Thierry?
Alors, Daniel, c'est possible quand la science se met au service de l'égyptologie. Ces dernières technologies d'imagerie satellite mises au point par la NASA révolutionnent aujourd'hui cette profession. Alors, les satellites se trouvent en orbite à 700 km au-dessus de notre planète et ils sont aujourd'hui capables de localiser des objets qui se trouvent à moins d'un mètre de la surface de la Terre.
Ah oui, c'est assez incroyable. Mais alors, comment fonctionne exactement cette technologie?
Bon, pour faire simple, ce sont des clichés en haute résolution qui, pris depuis l'espace et qui sont elles-mêmes combinées avec l'infrarouge, indiquent des variations de densité et le résultat qui est obtenu permet de localiser des constructions qui sont enfouies sous terre.
On écoute un extrait de ce documentaire.
L'essentiel du site n'est qu'une étendue sablonneuse inexplorée. Comme Sarah l'a appris lors de ses voyages précédents, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais le désert est sur le point de livrer ses secrets.
On a utilisé les photos haute résolution prises depuis l'espace. On les a combinées avec la technologie infrarouge. Et voilà, le plan d'une ville entière. Toutes ces structures sont enterrées.
La voix de l'archéologue américaine Sarah Parcak qui explique qu'elle ne se concentre pas uniquement sur un site en particulier. Elle pousse ses recherches sur l'ensemble du territoire égyptien.
Exactement. Alors, entre parenthèses, Sarah Parcak, son travail est reconnu par la communauté internationale parce qu'elle a reçu en novembre 2016 un prix doté $1 million qui lui était attribué par les conférences sur l'innovation TED. Alors, pour en revenir à votre question, effectivement, comme on a pu l'entendre, Sarah Parcak, comme de très nombreux égyptologues, sont persuadés que seulement 1% des vestiges antiques ont été découverts aujourd'hui en Égypte. Avec sa technologie, elle espère non seulement dresser la cartographie de l'Égypte antique, mais aussi trouver des ruines de villes, de temples, de tombeaux, ou peut-être voir même de pyramides qui sont encore inconnues de nos jours.
À découvrir donc ce soir dans Science Grand Format sur France 5 à 20h50. Merci Thierry Minot et à la semaine prochaine.
Merci Daniel, au revoir.
Juste après les infos, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour une nouvelle affaire sensible. Aujourd'hui, Tony Muselin, le convoyeur devenu voleur.